journal. Bonjour Marc Fauvel.
Bonjour à tous. À la une ce matin, une lampe torche et soudain des regards qui s'allument. C'est l'image de la nuit en Thaïlande. Les secouristes ont pu entrer en contact avec les enfants bloqués au fond d'une grotte depuis 10 jours. Une vidéo les montre épuisés mais en bonne santé. Leur évacuation pourrait prendre des jours, voire des semaines. En France, le grand malaise dans la police et la gendarmerie. Un rapport du Sénat montre l'état de délabrement du matériel et d'épuisement des hommes. Mais qui va toucher la prime? Le gouvernement promet 1000 euros dès la rentrée pour les enseignants en zone sensible. Les syndicats s'inquiètent car une partie de cette somme serait attribuée au mérite. Des ministres au rapport dans le bureau du patron. Édouard Philippe lance aujourd'hui les évaluations annuelles de son équipe à 8h20 sur France Inter. C'est un ancien ministre qui viendra noter le gouvernement.
L'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation, Jack Lang, qui dialoguera avec vous au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, les Français de moins en moins fertiles. La tendance se confirme, tout comme le lien présumé avec les perturbateurs endocriniens. La Coupe du Monde de foot, la Belgique rejoint le Brésil en quart de finale. Et puis la génération Goldorak, 40 ans aujourd'hui. Vivant mais pas encore tiré d'affaire, après 10 jours passés sous terre et dans le noir, une équipe de sauveteurs a enfin pu entrer en contact avec les 12 enfants thaïlandais et leur entraîneur qui étaient bloqués au fond d'une grotte. Ils sont épuisés mais en bonne santé. Une vidéo tournée par les sauveteurs les montre assis par terre, encore vêtus de leur maillot de foot, amaigris, maculés de boue. Les sauveteurs vont désormais rester avec eux car il faudra encore des jours, peut-être des semaines, pour qu'ils puissent retourner à l'entrée de la grotte située à 4 km de là. Correspondance en Thaïlande et récit d'un sauvetage et d'un petit miracle avec Arnaud Dubus.
Les trois plongeurs britanniques s'étaient séparés des groupes de secouristes thaïlandais pour s'enfoncer dans une galerie en partie inondée. C'est alors que dans le faisceau de leur torche est apparu le groupe d'enfants et leur entraîneur juchés sur une roche entourée d'eau. La scène a été filmée sur le téléphone portable d'un des Anglais.
Combien êtes-vous? 13. Excellent. Vous voulez sortir dehors, mais pas aujourd'hui, non, il faut plonger. Nous arrivons, c'est ok, beaucoup de gens vont venir. Nous sommes les premiers, mais beaucoup de gens vont venir.
Une image étonnante que celle de ces enfants, certains souriants, assis sur la roche, leurs maillots de footballeur leur couvrant les jambes, essayant de converser en anglais. Les secouristes et les médecins thaïlandais ont commencé à les prendre en charge, en les réalimentant avec des gels riches en calories. Le défi est maintenant de pouvoir les sortir de la grotte, ce qui n'a rien d'évident car cela nécessite de franchir les galeries inondées. Or, aucun de ces enfants ne sait nager. Des militaires thaïlandais vont leur apprendre à plonger, mais leur évacuation pourrait prendre plusieurs semaines afin d'être sûr qu'aucun accident ne se produise. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI pour France Inter.
Toujours à l'étranger, accord conclu en Allemagne après 3 semaines de bras de fer sur sa politique migratoire. Angela Merkel a trouvé un compromis hier soir avec son ministre de l'Intérieur qui menaçait de démissionner. Compromis qui prévoit l'installation de centres de transit à la frontière avec l'Autriche. C'est là que seront envoyés désormais les migrants en attente d'expulsion vers un autre pays d'Europe. Pour eux, l'exil s'est arrêté en Méditerranée à une 50aine de kilomètres des côtes libyennes. 63 migrants sont portés disparus dans un nouveau naufrage. Leur canot pneumatique a coulé à pic. En France, des policiers obligés de se payer eux-mêmes leurs chaussures ou leurs ceinturons, des commissariats qui tombent en ruine et des voitures qui ne démarrent plus. Voilà le tableau noir de la police et de la gendarmerie, passé au crible par une commission d'enquête du Sénat et révélé ce matin par le Figaro. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Ce que décrit d'abord ce rapport, c'est l'incroyable délabrement du matériel dans les gendarmeries et les commissariats.
Oui, et c'est peut-être là que ce rapport parlementaire est inédit. Dans le recensement minutieux de la partie délabrée, déclassée des forces de sécurité intérieure. On ne parle pas ici de salaire, de nombre d'heures hebdomadaires, mais de ce qui garantit la sécurité des agents et des citoyens, à commencer par les munitions qui manquent régulièrement, qui ne permettent toujours pas de garantir le nombre minimal d'entraînements au tir annuel. C'est 3, hein, normalement. Les voitures de service, 10% qui ont plus de 10 ans, des portières coulissantes qui tombent en opération, le nouveau matériel de protection et des armes qui ne rentrent pas dans le coffre, des sirènes, enfin, qui ne se déclenchent pas quand il faut passer au feu rouge.
Et puis, il y a la question du malaise et de l'épuisement des forces de l'ordre.
Oui, les sénateurs qui ont réalisé ce rapport après 6 mois d'enquête parlent d'un effet Magnanville, de cet attentat qui a visé, qui a ciblé 2 policiers en juin 2016 dans les Yvelines, à leur domicile, avec un changement profond de l'état d'esprit des forces de sécurité intérieure, qui du coup n'acceptent plus ce qu'ils toléraient avant les attentats de 2015, la défiance d'une partie de la population dans certains quartiers, et puis surtout pour la police nationale, la gestion interne, le non-paiement de 21 millions d'heures supplémentaires, alors que la haute hiérarchie touche toujours des primes conséquentes. Enfin, le rejet absolu des lourdeurs de la procédure pénale, les logiciels défectueux, la paperasse et les photocopieuses qui, elles aussi, tombe en panne souvent.
Merci Emmanuel Leclerc. Des primes pour les profs qui enseignent en zone sensible, le gouvernement l'a annoncé hier. Les enseignants qui exercent dans les quartiers les plus difficiles toucheront une prime annuelle de 1000 euros au mois de septembre. À terme, ce sera 3000 euros par an, mais pas forcément pour tout le monde, car une partie de cette somme pourrait être attribuée au mérite et après évaluation des enseignants, ce qui fait déjà tiquer les syndicats, Solène Lehen.
Cette prime concernera les 41 000 enseignants de maternelle, élémentaire et collège en REP+, mais aussi les chefs d'établissement et les agents administratifs. En REP+, les enseignants touchaient déjà une indemnité de 2300 euros par an. Avec 3000 de plus, cela fait 450 euros par mois. Mais il y a un mais, précise Édouard Geffray, DRH du ministère de l'Éducation.
Avec simplement cette petite question qui est ouverte, de savoir si un fragment de la prime doit ou pas être associé à une dimension qualité.
Sous-entendu, une part de cette prime pourrait être variable. La prime serait accordée dans sa totalité à l'ensemble des enseignants d'une école ou d'un collège, seulement s'ils ont été performants par rapport au projet collectif de début d'année. Comment serait-il évalué ? À la réussite des élèves, aux compétences des enseignants, à leur ancienneté dans l'école ? Question posée par les syndicats, Stéphane Crochet du SEUNSA.
La promesse du candidat Macron était très claire, c'était 3000 euros pour les enseignants en éducation prioritaire. Là, on est dans le plus grand flou.
La rémunération au mérite, un débat tout juste ouvert par le ministère de l'Éducation. Les négociations avec les syndicats d'enseignants sur les modalités de cette prime devraient aboutir à l'automne.
Fumée blanche en vue au MEDEF, c'est ce matin que les patrons élisent leur nouveau patron qui succédera à Pierre Gattaz. Le scrutin s'annonce serré entre les deux finalistes. D'un côté, Geoffroy Roux de Bézieux, venu des télécoms et de la nouvelle économie. De l'autre, Alexandre Sobo, issu de la métallurgie. Il était l'un des négociateurs du MEDEF ces derniers mois.
8h07, il n'y a pas qu'à l'école que c'est la saison des conseils de classe.
Au rapport, le gouvernement au grand complet s'apprête à défiler dans le bureau du Premier ministre Édouard Philippe pour un entretien suivi d'une évaluation. C'est l'élève Blanquer qui passe le premier l'oral ce matin et les ministres, qu'ils soient poids lourds ou poids plumes, ont été priés de réviser leurs fiches, Karine Bécard.
Pour optimiser ses entretiens annuels, le Premier ministre Édouard Philippe a préparé des tableaux extrêmement précis. Chaque ministre est prié de scrupuleusement les remplir pour présenter ses futures réformes, les retombées qui en sont espérées, sur quelles équipes il espère s'appuyer et sur quel calendrier. Une méthode très macroniste qui convient parfaitement à Julien de Normandie, le secrétaire d'État à la cohésion des territoires auprès du ministre Jacques Mézard.
Moi-même, à l'échelle de mes collaborateurs, je vais faire exactement les mêmes types d'entretiens. Parce que je trouve qu'un bon management, c'est ce management où on prend le temps aussi de se poser, d'évaluer les choses et de voir comment on repart de plus belle.
Au sein du gouvernement, personne ne conteste ces entretiens individuels directement inspirés du privé. Maintenant, entraîneront-ils un éventuel remaniement ? Ce n'est pas ce qui a été annoncé, mais certains ministres sont légèrement inquiets, comme Nathalie Loiseau, en charge des affaires européennes, reçue dans Questions politiques le 24 juin dernier.
Si on me demande de servir ailleurs, je le ferai, mais pour le moment, je crois que j'ai pas mal à faire.
Il y a cinq ans, sous la pression, précédente mandature, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, avait lui aussi procédé à de telles évaluations annuelles, mais beaucoup plus discrètement. François Fillon également, mais cela n'a duré qu'un an, peut-être parce que l'efficacité du procédé n'avait pas été totalement prouvée.
Karine Bécard, c'est confirmé, le Front National devra bien rembourser un demi-million d'euros au Parlement européen pour des dépenses injustifiées. Le Parlement évoque des cadeaux de Noël, l'achat de 230 bouteilles de champagne ou encore des repas au restaurant à 450 euros par personne. On l'avait quitté au tribunal, on le retrouve au dispensaire. Deux mois après sa condamnation en appel pour fraude fiscale, Jérôme Cahuzac reprend du service. Il vient d'être embauché comme médecin remplaçant en Guyane, dans un village amérindien perdu au fond de la jungle, pour une mission d'un mois. C'est lui, chirurgien de formation, qui s'est porté volontaire.
Ils sont partout autour de nous, mais avec quelles conséquences sur notre corps et notre santé ?
Les perturbateurs endocriniens sont-ils en train de dérégler la machine humaine ? Dans son dernier bulletin, l'organisme Santé publique France fait le bilan des dernières recherches avec un constat. Notre santé reproductive se dégrade depuis des décennies, que ce soit la qualité du sperme, les cancers, les maladies, malformations génitales. Tous les indicateurs sont inquiétants. Le lien avec les perturbateurs endocriniens n'est pas établi à 100%, mais les soupçons s'accumulent. Véronique Julia.
C'était en août 2013, à la naissance de son petit garçon, son deuxième enfant, Candice comprend vite qu'il y a un problème.
Quelques minutes après la naissance, une fois que le pédiatre fait les premiers examens, il me dit, écoutez, il a une petite malformation au pénis, il a le petit trou qui est placé au mauvais endroit, c'est pas grave du tout, il pourra être opéré.
Pas grave peut-être, d'ailleurs l'enfant a été opéré un an plus tard et aujourd'hui il va bien, mais Candice a évidemment interrogé son mode de vie.
Donc je repense à ces moments où je mangeais n'importe quoi, où je faisais le ménage avec des produits pas super sécurisés, j'ai beaucoup de culpabilité.
Plus que ces malformations du pénis, c'est surtout l'augmentation de ce qu'on appelle les cryptorchidies qui étonne, la non-descente des testicules. Le nombre de cas progresse de 2,5% par an depuis 2002. Ça s'opère, mais ça peut avoir une incidence plus tard sur la fertilité. Inquiétante aussi l'augmentation des cancers des testicules, plus 1,5% par an. La baisse aussi de la qualité du sperme. Joël Lemoyle est épidémiologiste à Santé publique France.
Les deux études qu'on a publiées montrent une détérioration de la concentration spermatique des hommes en France de 32% sur 17 ans.
Chez les filles, ce sont les pubertés précoces qui inquiètent, les seins et la pilosité avant 8 ans, près de 1200 cas par an chez les filles, c'est 10 fois plus que chez les garçons. Là encore, pas de lien formellement établi avec les perturbateurs, mais des soupçons que d'autres études en cours pourraient confirmer dans les années à venir.
Et si la Chine donnait l'exemple alors que les États-Unis se sont retirés, vous le savez, de l'accord de Paris sur le climat, alors que l'Europe aura du mal à tenir ses objectifs, eh bien les émissions chinoises de CO2 seraient en recul, et même depuis 2014, le pic de pollution au dioxyde de carbone du premier pollueur de la planète serait donc derrière nous, alors que Pékin espérait l'atteindre au mieux d'ici 2030.
Inter 8h11, le foot, c'était soirée remontada pour la Belgique.
Les Diables Rouges ont frôlé l'enfer hier soir, menés 2-0 par le Japon. Ils ont inscrit 3 buts dans les 20 dernières minutes, dont celui de la victoire à la dernière seconde de jeu. La Belgique retrouvera le Brésil vendredi en quart de finale. Mais avant cela, il reste encore 2 huitièmes de finale à disputer aujourd'hui. Suède-Suisse, c'est à 16h, et à 20h, Colombie-Angleterre. Bonjour Franck Ballanger.
Bonjour Marc.
La Colombie se présente avec son attaquant Falcao. On le connaît ici en France, il joue à Monaco, mais dans son pays, c'est une idole.
Oui, en Colombie, tout le monde l'appelle le Tigre, un surnom qui en dit long sur son envie de gagner et sur l'amour que lui portent les supporters des Cafeteros. Mais il doit son prénom à un grand joueur brésilien des années 70-80, Radamel Falcao, s'appelle ainsi parce que son papa, ancien joueur professionnel en Colombie, était fan de Paulo Roberto Falcao, immense milieu de terrain offensif de l'équipe du Brésil et de l'AS Rome. C'était écrit, Radamel Falcao ne pourrait pas devenir cuisinier ou instituteur, il serait footballeur. Et le 28 août 99, en entrant en jeu dans un match de deuxième division sous les couleurs des Lanceros Boyacá, il devient, à 13 ans et 199 jours, le plus jeune joueur de l'histoire du foot pro colombien.
Et depuis cette époque, Radamel Falcao promène sa simplicité sur tous les terrains du monde.
Radamel Falcao a appris à relativiser, Marc, à cause des blessures, notamment 2 ruptures des ligaments croisés du genou qui auraient pu mettre un terme à sa carrière. Partout où il est passé, que ce soit à River Plate en Argentine, à Porto au Portugal et même à Manchester et Chelsea, où il n'a pourtant pas beaucoup joué, le Colombien a laissé l'image d'un grand professionnel, abordable et réservé. Et puis, il y a Dieu. Le Tigre est chrétien pentecôtiste évangélique. Il a souvent parlé de sa foi pour expliquer qu'elle dirigeait sa vie, et lorsqu'un journaliste lui a demandé quel était le plus beau but de sa carrière, il a répondu que son plus beau but avait été de connaître Jésus. Ses détracteurs avancent qu'il aime aussi beaucoup l'argent. Radamel Falcao a été éclaboussé dans le cadre des Football Leaks et accusé d'évasion fiscale. En mai dernier, il a d'ailleurs été condamné par la justice espagnole à 16 mois de prison et 9 millions d'euros d'amende.
Alors question, Radamel Falcao est-il plutôt ange ou plutôt démon ?
Plutôt ange quand même, Marc. Écoutez ce que dit de lui son compatriote et romancier Juan Gabriel Vázquez. Falcao est aux antipodes de nos stars clivantes du passé. Même s'il perçoit un salaire scandaleux, sa normalité a contaminé un pays tout sauf normal et il nous apporte ce que nous n'avons jamais eu. Fin de citation. Et puis, contrairement à la quasi-totalité des stars colombiennes, du football ou du spectacle, Radamel Falcao a des idées pour son pays et il les exprime, même si cela pourrait lui attirer des ennuis. En 2012, par exemple, il avait signé une tribune dans un grand quotidien appelant son gouvernement à ratifier l'accord de paix avec les guérilleros des FARC, les forces armées révolutionnaires colombiennes. Courageux et rare, parce que les footballeurs ne s'aventurent pas souvent sur le terrain de la politique.
Franck Ballanger, en Russie pour France Inter.
Et on termine, Marc, avec un anniversaire qui va sans doute rappeler des souvenirs à certains d'entre vous.
Attention, si je vous dis Corneau Fulgur ou encore Astéro H, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Goldorak, le dessin animé de science-fiction japonais dont le tout premier épisode a été diffusé il y a 40 ans aujourd'hui, le 3 juillet 78, sur une chaîne qui s'appelait encore Antenne 2. L'émission, c'était Récréa 2. Alors, Goldorak, go, Alexandra Hakoun.
Il traverse tout l'univers.
C'est presque en catimini qu'est diffusé le premier épisode. Antenne 2 n'est pas convaincue de l'adhésion du jeune public à ce nouveau genre. La chaîne profite de la torpeur de juillet pour se lancer.
Goldorak, go !
Ah, c'était un vrai choc esthétique tout de suite. J'avais jamais vu un film d'animation cadré comme ça et avec ce look-là.
Guillaume Hivernel a alors 9 ans. Il est aujourd'hui l'une des stars françaises de l'animation.
Les Japonais ont une manière de découper qui est très différente de la manière de découper des Américains. Ils sont beaucoup plus proches de la prise de vue réelle. Ce qui fait que ça donne un style qui est extrêmement différent de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Faut pas oublier qu'il y avait quand même que 3 chaînes. Ce qu'on voyait en général, c'était des Tom et Jerry, des choses comme ça.
Le succès est fulgurant, ouvrant la voie à d'autres mangas. Candy, Albator, les parents sont effrayés, la presse scandalisée. Marie Pruvot de Laspre, spécialiste de l'histoire de l'animation japonaise.
Goldorak apparaît en une de Paris Match quelques mois après. Et là, effectivement, on est plutôt dans l'idée d'un personnage qui viendrait représenter cette découverte du Japon comme puissance économique, avec toutes les inquiétudes que ça suscite. On trouve dans ses articles des références au péril jaune, à l'idée d'une invasion des produits japonais qui seraient dangereux pour les enfants.
40 ans plus tard, Goldorak est toujours là. On lui consacre colloques, expositions, livres, une vraie icône de la pop culture.
Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours.
Oui, la musique, elle aussi, a 40 ans, hein,
ouais,
ouais. Nicolas, ça vieillit un tout petit peu.
Un petit coup de
peu,
vieux,
hein.
Ouais.
Tout petit peu.
On dit vintage. Pour être sympa. Merci Marc Fauvel. La météo, Marie-Pierre Planchon. Marie-Pierre,
là.
Oui, vous
Bonjour.
Êtes là. Encore très nuageux. À 8h16, très nuageux ce matin.
Oui, dans le nord-ouest et jusqu'à la Vendée. Pas mal de grisailles hein, qui empêchent le soleil de percer. Mais où le temps est tout de même un moins agité qu'hier. Vous aurez des averses orageuses sur le Cotentin, la baie de Seine. Et quelques averses sont encore possibles en matinée en se dirigeant vers le Massif central ou les reliefs de l'Est. Puis on a aussi quelques nuages côtiers qui se baladent vers les côtes varoises et la Corse, comme sur les côtes aquitaines. Ailleurs, c'est soleil qui s'est levé en douceur.
Retour des orages cet après-midi.
Oui, avec l'activité diurne et l'atmosphère restant lourde, on va retrouver ces orages de la Normandie à la Bourgogne en passant par le bassin parisien. Et dans la soirée, ça va gronder plus fort au nord de la Loire, mais aussi des Vosges, aux Alpes du Sud et dans une moindre mesure dans les Pyrénées et les monts du Vivarais. Et puis il va le faire chaud, voire très chaud encore. Dans le sud et l'est, il fera 33 à Marseille sur la plage du Prato, 35 à Grenoble, 33 à Avignon, mais beaucoup plus respirable à Menton avec 26 et 28 à Ajaccio. On attend encore 33 à Montauban, 30 à Bordeaux comme dans la capitale, à Lille, à Metz ou Bourges, mais 22 dans la baie du Mont-Saint-Michel ou à Landivisiau en Bretagne, 26 à Nantes et 24 sur la plage de Saint-Jean-de-Monts.